C'est Olivier Bois.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À la une de ce journal, l'incendie de la cathédrale de Nantes était bien criminel. Le bénévole du diocèse, arrêté une première fois la semaine dernière, a finalement avoué les faits la nuit dernière dans le bureau du juge. Les preuves accumulées contre lui cette semaine étaient accablantes. À la une également, l'épidémie de coronavirus qui reprend de la force ces derniers temps en France. On n'a pas encore gagné la guerre. La phrase est du ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin, qui demande aux jeunes particulièrement d'être plus vigilants. En Gironde, ils sont de plus en plus nombreux à être contaminés, trop insouciants. En ce moment, on verra que tous les soirs à Arcachon, les fêtes se prolongent jusque tard dans la nuit sans beaucoup de gestes de précaution. À l'opposé, certains ont compris le message et beaucoup en tout cas se font tester avant de partir en vacances. C'est flagrant, les files d'attente s'allongent devant les laboratoires. Ce matin à Neuilly, par exemple, il y avait des heures d'attente avant de pouvoir se faire tester. Dans ce journal également, l'hommage au père Hamel ce matin à Saint-Étienne-du-Rouvray, 4 ans après sa mort, assassiné par des djihadistes. Les habitants étaient très nombreux pour saluer sa mémoire. La météo, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Le beau temps revient dès cet après-midi.
Oui, par le nord-ouest, en tout cas là où on avait eu de la pluie hier. Et ces petites pluies ont glissé un peu vers le sud. On les retrouve entre la Gironde et l'Alsace à l'heure qu'il est. Ça va aller en s'atténuant. Disons que le plus fort des pluies, ce serait plutôt vers la Bourgogne à l'heure qu'il est. Mais franchement, ça ne va pas être suffisant, en tout cas pour toute l'eau dont on a besoin de part et d'autre de cette petite bande. Donc beaucoup de soleil près de la Méditerranée, dans les Alpes, bien sûr, ainsi que dans la vallée du Rhône ou encore en Auvergne. Et puis à l'arrière, sur la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien, le nord ou encore le Poitou-Charentes, le centre et les Pays de Loire. Et bien là, c'est pareil, le soleil est revenu. Les températures cet après-midi, elles sont douces partout. 20 degrés prévus à Cherbourg, 23 à Lille, 25 à Paris, 27 à Colmar, 31 à Toulouse, 32 degrés à Lyon et 34 à Marseille.
Et la tendance pour la semaine, Valérie?
Et bien ça se présente plutôt estival partout. Alors demain, ce sera une belle journée ensoleillée pratiquement partout. Des températures qui vont remonter un petit peu puisqu'on a perdu 1 à 2 degrés par endroit aujourd'hui. Mardi et mercredi, ça va être les deux journées, on va dire, les plus morose parce qu'il y a une toute petite dégradation de rien du tout qui va traverser le territoire. Il pourrait y avoir des orages assez sérieux, surtout en montagne d'ailleurs, entre le Massif central et les Alpes pour l'après-midi de mardi. Les températures seront à peu près stables sur ces deux journées, 27 degrés de moyenne au nord, 31 à 32 au sud. Et puis jeudi et vendredi, les deux journées les plus belles et les plus chaudes de la semaine surtout. Vendredi, on attend un pic de chaleur, on pourrait dépasser les 40 degrés dans le sud-ouest.
Parfait, merci beaucoup Valérie Quintin. Dans un quart d'heure, notre rendez-vous du dimanche midi, Chemin d'écrivain. Avec vous, Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Bernard, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui ?
À Londres, en compagnie de la romancière Tatiana de Ronay et de ses souvenirs d'enfance.
A tout à l'heure, Bernard. Midi 45, Chemin d'écrivain.
RTL Midi.
Il a donc avoué cette nuit dans le bureau du juge Emmanuel, ce réfugié rwandais de 39 ans, bénévole du diocèse, a reconnu avoir lui-même incendié la cathédrale de Nantes. Il avait été suspecté dès le départ parce qu'il est celui qui avait les clés de la cathédrale. Il était celui également qui en était parti le dernier, la veille de l'incendie, pendant sa première garde à vue. Il avait totalement nié les faits, il était d'ailleurs ressorti libre, mais interpellé une nouvelle fois, il a finalement craqué face aux preuves accumulées contre lui cette semaine, Mathieu Lopineau.
Oui, les enquêteurs avaient de nouveaux éléments fournis par la police scientifique, comme des prélèvements à l'intérieur de la cathédrale qui ont révélé des traces d'hydrocarbures. Donc là, il n'était plus question d'incendie involontaire. Et puis l'exploitation de la vidéosurveillance également de la place de la cathédrale, voyant l'homme sortir quelques minutes seulement après l'incendie. Alors lors de la première garde à vue, le week-end dernier, les enquêteurs n'étaient pas très convaincus par la version du bénévole. Hier encore, d'ailleurs, il continuait à nier les accusations. Deuxième garde à vue a commencé samedi matin à 6h. La PJ attendait ses preuves formelles reçues cette semaine par la police scientifique de Paris pour pouvoir le confronter. Et cette nuit, à 2h du matin, près de 24 heures de garde à vue, ce servant d'hôtel de 39 ans n'a plus eu le choix face aux preuves des enquêteurs. Il est passé aux aveux, il a craqué dans le bureau du juge d'instruction. Il a reconnu avoir allumé les trois feux dans la cathédrale. Emmanuel a été écroué, il risque 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Merci Mathieu. Son avocat, maître Quentin Chabert, a confié ce matin que son client regrettait amèrement les faits, qu'il était, je cite, « rongé par le remords et complètement dépassé par l'ampleur de l'événement ». C'est en tout cas un rebondissement spectaculaire qui étonne tous ceux qui connaissaient cet homme. Mathieu, vous avez recueilli ce matin le témoignage de l'organiste de la cathédrale de Nantes, Michel Boursier. La semaine dernière, on l'avait déjà interrogé. Il ne pouvait pas alors imaginer la culpabilité de celui qu'il connaît très bien. Il est donc tombé des nues ce matin.
La surprise est renouvelée par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire que je m'en étonne de nouveau, incompréhensible pour nous. Je fais partie de la communauté, donc évidemment ça fait mal au cœur. C'est peut-être un coup de folie, alors devant un coup de folie on ne peut rien. Mais c'est un chrétien, c'est notre frère, donc on est attentif à lui. Il faut que la justice passe bien évidemment. Pour l'instant il y a eu des dégâts irréparables, laissons la justice terminer son travail et on lui fait confiance. Je suis plutôt abattu qu'en colère, l'acte est infiniment grave. Comme dans toute affaire de justice, bien évidemment, il faut que la justice passe. Voilà, faisons-lui confiance.
Mathieu, on entend la surprise et la colère donc, de Michel Boursier, qui est l'organiste de la cathédrale de Nantes. Vous êtes retourné, vous, ce matin, sur le parvis de la cathédrale de Nantes. Une messe se tenait juste à côté avec les fidèles habituels, précisément, de la cathédrale. Eux aussi ont été plus que surpris par ce rebondissement.
Oui, alors de nombreux fidèles connaissaient bien Emmanuel en tant que bénévole, en tant que servant d'hôtel, c'est-à-dire que c'est lui qui aidait pendant les messes. Et il était également en charge d'ouvrir et de fermer la cathédrale. C'était d'ailleurs le cas la veille de l'incendie. Alors tous parlent de lui comme un homme charmant, un homme discret. Les paroissiens comme Jean sont affligés de la situation.
C'est dramatique, on est consterné par ce qui arrive. Et puis c'est quelqu'un qui en avait confiance. Enfin voilà, c'est toujours délicat de reconnaître que c'est l'un d'entre nous, en tout cas, qui a fait un tel geste. On est tous affligés, je pense. On est tous, tout le monde a tendu la main pour qu'il se sente moins seul et qu'il se sente accueilli et soutenu. Et malheureusement, on n'a pas su et on n'a pas dû voir ce qui n'allait pas suffisamment tôt pour l'aider. Voilà. Notre but dans la vie, c'est de pardonner. Voilà. Alors après, le pardon n'exclut pas la justice.
Et l'avocat du bénévole relevait dès le week-end dernier que la communauté catholique serait donc la plus même de pardonner. En attendant, l'enquête se poursuit.
Merci beaucoup Mathieu Lopineau à Nantes. Il est 12h36 sur RTL. Les autorités sanitaires le répètent depuis plusieurs jours maintenant. L'épidémie de coronavirus est à la hausse. Le nombre de cas a augmenté par exemple de 27% la semaine dernière. Les passages aux urgences également augmentent. Il est temps de resserrer un peu les boulons sur les gestes barrières. Le ministre de la Santé, d'ailleurs Olivier Véran, demande ce matin spécifiquement aux jeunes d'être plus vigilants. Ils sont particulièrement touchés en ce moment par ce regain. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'insouciance chez certains, en tout cas. Exemple à Arcachon, où les soirées sur la plage ont tendance à finir très tard depuis le début de l'été, Juliette Chaignon.
Des soirées à la plage, il y en a toujours eu, mais cette année, c'est plus fréquent et ça finit plus tard, parfois 4-5 heures du matin pour Gaspard.
Il n'y a pas de boîte pour continuer la soirée plus tard, donc forcément, on continue à la plage un peu plus souvent, un peu plus longtemps.
Sur la plage d'Arcachon, hier soir, un groupe de 20 adolescents a dansé les pieds dans le sable. La veille, ils étaient près de 100 au même endroit. Laure, 19 ans, s'y est amusée.
On n'avait pas de masque, on a mis quelques fois du gel hydroalcoolique sur les mains, histoire d'eux, mais on respectait pas du tout à fond les gestes barrières.
Quand ce n'est pas à la plage, les soirées se font les uns chez les autres. Bilal et Hakim, 17 ans, font des efforts. Ils se sont fait tester avant d'arriver, mais ce n'est pas toujours facile de garder les bons réflexes.
On évite de boire dans les mêmes verres, tout ça. En ce moment, on évite tout ce qui est mélange à l'hiver.
Bon, parfois,
ça nous arrive de zigzag, mais ça va, on se porte.
Margot, comme la plupart des jeunes de son âge, a quand même conscience du risque.
Je sais que c'est pas bien du tout, et je sais, mais j'y ai pas du tout pensé sur le moment. Et ouais, j'avais envie de m'amuser.
Et certains, comme Mathéo, font attention quand ils visitent leurs grands-parents.
Je prends souvent des précautions, genre je leur fais plus la bise, je m'approche pas, je leur serre pas la main, je mets mon masque même.
L'autre inquiétude dans la région, ce sont les fêtes sauvages en forêt. Jusqu'à 2500 fêtards dans les bois, parfois. La préfecture compte une soirée de ce type chaque semaine depuis la fin du mois dernier. Les autorités ont donc annoncé dans la semaine un renforcement des contrôles.
Merci beaucoup Juliette Chaignon. Ceci dit, malgré ces relâchements, le message commence tout de même à passer. Il y a un signe qui ne trompe pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous faire tester, notamment juste avant de partir en vacances. Les files d'attente devant les laboratoires s'allongent. C'était particulièrement flagrant ce matin à Neuilly. Un dimanche matin, pourtant, Juliette Jay, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui attendaient sur le trottoir de pouvoir entrer dans le laboratoire.
Oui, 150 personnes dans la queue et près de 3 heures d'attente ce matin devant le laboratoire. Des dizaines de vacanciers viennent se faire tester avant de monter dans l'avion, comme Juan et sa famille.
On doit aller en Martinique dans 3 jours et on a besoin de prouver qu'on n'est pas contaminé 72 heures avant.
Sylvrine Foy, qui part en Guadeloupe, est venue ici pour obtenir ses résultats rapidement.
Ils promettent entre 24 et 28 heures, donc ce qui est un délai plus court que les autres labos que j'ai contactés la semaine dernière.
À ces vacanciers s'ajoutent les patients habituels.
Depuis quelques jours, je tousse et j'ai le nez qui coule, donc par précaution.
Ma fille a été testée positivement.
J'étais en contact avec des personnes à risque.
Un flux imprévisible pour Emmanuel Bougrat du laboratoire Neuilly-Sablon.
C'est un laboratoire qu'on nous a demandé d'ouvrir pour permettre aux gens de partir en vacances. Et on a été dépassés par le succès parce que même les gens qui ne partent pas en vacances et qui n'ont pas de besoins immédiats rapides viennent aussi et se mélangent à des gens qui ont une vraie problématique de timing par rapport à leur départ en vacances.
Dernier argument, depuis hier, les tests PCR sont remboursés pour tous les patients, même sans ordonnance.
Merci beaucoup Juliette Jay. Et puis justement, à propos de vigilance et de respect de la distance, un dernier mot, le Puy du Fou recule face à la polémique. Le Parc Vendéen a accueilli hier 12 000 spectateurs d'un coup pour l'un de ses spectacles, expliquant et se défendant qu'ils avaient été répartis en trois tribunes différentes, mais cette affluence a suscité de l'indignation. Et finalement, le Puy du Fou annonce que désormais il respectera cette limite des 5000 spectateurs maximum.
RTL Midi.
On va parler maintenant de cette très grande émotion ce matin à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. Il y a 4 ans, le père Hamel était assassiné dans son église par 2 djihadistes de Daesh. Une messe était célébrée ce matin en sa mémoire et les habitants étaient très nombreux, Julien Caillard.
Oui, messe très émouvante pour les Stéphanais. Près de 300 y ont assisté, des habitants parfois en larmes qui tous tenaient à être là pour le père Hamel.
Moi, j'ai le baptême et la communion de mes 3 enfants, c'est lui qui les a fait, quoi. Personne n'oublie, voilà.
Pour moi, c'est dur là-dedans. Là, je suis là pour la messe, avec des larmes. Je peux pas comprendre, c'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. On a perdu quelqu'un sans défense. Hein ? Alors pourquoi ça ? Pourquoi ?
4 ans après, la douleur reste immense.
Un truc comme ça, on ne peut pas pardonner.
Pourtant, beaucoup veulent aujourd'hui la dépasser.
Il faut savoir pardonner, un jour ou un autre, il faut savoir pardonner, quoi.
Il n'y a pas de haine, mais c'est quand même la plaie ouverte quand vous êtes catholique. C'est pardonner, mais il y a quand même la cicatrice.
Près de 60 nationalités vivent ici. Toutes les religions étaient là ce matin. Image d'union que veulent retenir les habitants.
Saint-Étienne, c'est la ville du vivre ensemble. Fierté d'avoir surpassé la haine. On est tous dans la dignité, montrer qu'on peut tous vivre ensemble.
Les gens qui ont fait des conneries pareilles et pensaient diviser, heureusement, ça a donné encore plus d'unité.
L'unité comme un message envoyé ce matin au père Hamel.
Merci beaucoup Julien Caillard. À noter que cette messe est tenue en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Deux mots de sport, du foot d'abord, et l'arrivée d'un nouveau directeur sportif à Marseille. C'est l'Espagnol Pablo Longoria qui succède à son compatriote Andoni Zubizarreta. À seulement 33 ans, il a déjà travaillé à la cellule de recrutement de Newcastle, de Bergame et de la Juventus de Turin. Et puis en moto GP, c'est le français Fabio Quartararo qui s'élance cet après-midi en pole position du Grand Prix d'Andalousie. Le jeune français qui confirme donc après sa première victoire le week-end dernier. À noter que Marc Marquez, lui, est forfait. Allez, pour terminer ce journal, on va parler des vacances sans évoquer pour une fois le stress ou le coronavirus et parler d'une des grandes tendances de cet été sur les plages, le paddle qui a une très grande cote, plus que jamais même, c'est ce que vous avez constaté, Denis Grandjou, au bord du lac de Moutchik à Lacanau.
Oui, Chris est une des pionnières du paddle stand-up en Gironde. Elle loue des planches depuis plus de 20 ans et elle n'avait jamais connu une telle affluence.
Je ne sais pas s'ils ont peur d'être reconfinés, toujours est-il qu'ils sont là. Et c'est blindé.
7 jours sur 7, dès le matin très tôt jusqu'au début de soirée, elle reçoit des vacanciers.
Beaucoup de petites jeunes, beaucoup de familles. Et là, j'ai une nouvelle clientèle de personnes âgées. On est debout sur l'eau. Donc c'est une sensation extraordinaire. Vous passez un bon moment, bien évidemment. Vous passez là entre les bateaux et vous allez dans ce baie qui est magnifique. Vous revenez en longeant les berges, il y a plein d'herbiers, c'est super. Je prends le temps, c'est souvent un petit problème de coordination ou de force pour se propulser. S'il n'y a pas trop de vent, tout le monde monte sur une planche et part en balade, même 2 heures.
Pour Chris, juillet est d'ores et déjà un mois largement positif. Mais pour la suite...
On n'a pas de visibilité. Je ne sais pas si du coup les gens sont venus en juillet et auront pas de vacances en août. Ou... Je ne sais pas.
En attendant, ces 50 planches de paddle sont en rotation quasi permanente sur les eaux tièdes du lac du Moutchik.
Merci beaucoup Denis Grandjou. Une pause dans un instant. On retrouve Bernard Lehu comme tous les dimanches midi. Chemin d'écrivain, chemin de l'inspiration. Bernard Lehu qui nous emmène à Londres avec Tatiana Deronet. A tout de suite.